100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2025. Bonsoir à toutes et tous, vous écoutez 100 ans d'histoire et nous sommes avec Jean-Sara Méa, historien et géographe. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, 1945, on en entend beaucoup parler et on va en entendre encore bien parler les 80 ans. Comme disent les émissions de radio ou de télévision, dans 10 ans, il n'y aura plus de personne vivante pouvant raconter avec un esprit alerte cette année 1945, c'est évident. Alors bon, bon anniversaire à toutes celles et ceux qui ont 80 ans cette année. Alors je le dis tout de suite, je ne vais pas traiter de l'aspect militaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait deux ou trois émissions. Rappeler évidemment que ça se termine par une capitulation le 8 et 9 mai à Berlin pour l'Europe et le 2 septembre en baie de Tokyo pour l'Asie.
Je rappelle que vous expliquez ce mot capitulation, contrairement à l'armistice, dans la première émission de cette saison avec vous, Jean-Sara Méa, sur les 80 ans du 8 mai.
Tout
alors, on ne va donc pas parler directement de la guerre, il se passe d'autres choses dans le monde, on en entend peut-être moins parler d'ailleurs. Que se passe-t-il dans le monde en 1945?
Bon, les deux grandes conférences entre les pays vainqueurs, quand on dit les vainqueurs, c'est évidemment Royaume-Uni, États-Unis, Union soviétique. Donc la première grande conférence en février à Yalta, où la guerre n'est pas terminée, mais où les trois grands se mettent d'accord, qu'est-ce qu'on va faire de l'Allemagne, qu'est-ce qu'on va faire de l'Italie, et comment on va organiser la renaissance de l'Europe, si possible de la démocratie. Et la deuxième conférence, qui est en juillet, à Potsdam, P-O-T-S, c'est dans la banlieue de Berlin, avec pas exactement les mêmes, puisque Roosevelt est mort entre-temps, donc c'est Truman, qui représente les États-Unis, où la guerre étant terminée en Europe, on se met d'accord sur la gestion de l'Allemagne occupée, sur l'aide économique qui doit être apportée aux pays en reconstruction très difficile, etc. Donc voilà, disons, l'essentiel. Et puis, n'oublions pas, à partir de l'automne, le procès de Nuremberg. Là, les vainqueurs, et France, la France en fait partie, s'étaient mis d'accord pour punir les auteurs de crimes de guerre et surtout, notion nouvelle sur le plan juridique, de crimes contre l'humanité. Donc ça va durer également toute l'année 1946, mais c'est à partir de l'automne. Pourquoi Nuremberg? Parce que c'est là qu'il y avait les grands messes du parti nazi. Voilà.
Donc ça, c'est au niveau international. Que se passe-t-il en France?
Alors, la France, toujours période de fin de la guerre, même si les trois quarts de la France sont libérés depuis la fin de l'été et l'automne 1944. Mais enfin, il reste les poches de l'Atlantique, il reste l'Alsace au début de l'année, la Moselle, et la frontière alpine, qui est toujours tenue, j'insiste, ce n'est que le 27 avril 1945, que l'armée allemande reçoit l'ordre de quitter le Chaberton et Montgenèvre. Même chose pour le Petit Saint-Bernard, même chose pour la frontière plus au sud, dans le Mercantour. 27 avril 1945. Donc, la France n'est pas totalement libérée. C'est une période de passion difficile, puisqu'il s'agit de retrouver et de punir les collaborateurs. Il y a la justice qui n'est pas encore officiellement remise en place partout, d'autant plus qu'on ne peut pas former des juges en quelques mois et même en quelques années, et qu'il faut prendre les équipes de juges qui avaient prêté serment au maréchal Pétain. Donc c'est le général de Gaulle qui est à la tête du gouvernement provisoire en attendant les élections. Alors, très important, c'est fin avril, début mai, qu'il y a les premières élections d'après-guerre. Ce sont les élections municipales. Et on n'a pas attendu que les prisonniers ou déportés soient rentrés. mais c'était urgent au niveau local d'avoir des personnes démocratiquement élues avec pluralité de partis et donc considérées comme légitimes. Par contre, ce n'est qu'à l'automne qu'il y aura deux référendums pour savoir si les Français veulent continuer la Troisième République, ce sera non, et quelle forme donner à la future Quatrième République. Donc ça, les grands choix politiques sont à l'automne 45. Autrement, la France est en partie détruite, il faut remettre en route les trains, essayer de regoudronner, mais avec quoi ? Les routes, trouver de l'essence, il n'y en a pas, il faut quémander aux États-Unis et aux Anglais, et il faut essayer de reconstruire en modernisant, d'où dès la fin de l'année 45, la décision de nationaliser, parce qu'il y a des entreprises et des banques qui n'ont pas les moyens d'investir pour moderniser en reconstruisant la France. D'où, et le général de Gaulle est tout à fait d'accord avec les trois partis politiques qui vont se partager la vie politique d'après-guerre, c'est le centre-droit, le parti chrétien, le MRP, c'est le parti socialiste, qui s'appelait SFIO à l'époque, et le parti communiste, PC, qui sont à peu près à égalité. Entre 22 et 25% de l'électorat chacun. Après, il y a des partis beaucoup moins importants. Mais signalons tout de même qu'il n'y aura pas un parti unifié symbolisant la résistance. La résistance était plurielle et peut-être que la plupart des résistants n'avaient pas envie de devenir des personnalités politiques. En tout cas, il n'y aura pas un parti unifié. Et puis, quand même, mai 45 et par la suite, ce sont des premières grandes difficultés qui annoncent la décolonisation. Les émeutes en Algérie, avec une terrible répression juste après le 8 mai, et le problème de l'Indochine. L'Indochine dont l'armée française a été exclue par les Japonais, et le général Gaulle va décider d'envoyer des volontaires et des soldats de métier, donc la Légion essentiellement, ou partie de l'armée d'Afrique, pour reprendre l'Indochine, ce qui se passera très mal les années suivantes. Et l'inflation, 48% d'inflation cette année 1945, 48% d'inflation.
C'est énorme. Et alors, dans ce contexte, que se passe-t-il au niveau de la culture ?
Le gouvernement français décide que l'enseignement secondaire sera gratuit. Ce n'était pas le cas jusque-là. L'enseignement secondaire, de la 6e à la terminale, était réservé à la bourgeoisie. C'était très coûteux. Voilà. Pour sourire, c'est en 1945 qu'apparaît Gros Minet. Dans les films d'animation, comme on doit dire de nos jours, venus des États-Unis. Quelques grands films. Rome, ville ouverte, de Rossellini, qui fait encore pleurer lorsque le prêtre est fusillé à la fin. Ce sont Les enfants du paradis avec Arletty qui ont été tournés pendant la guerre mais qui n'étaient pas autorisés. Et donc c'est visible à partir de 1945. Le prix Goncourt revient à Elsa Triolet pour le premier accro coûte 200 francs. Bon, c'est disons la veine féministe. Colette est admise à l'Académie Goncourt, même si on lui reproche quelques accointances pas toujours très patriotiques pendant la guerre. Bon, Gérard Philippe joue avec un grand succès la pièce Caligula d'Albert Camus. Sartre, qui a fait jouer pas mal de pièces dans Paris occupé, donne cette année-là le sursis.
Pas de sport cette semaine.
Il y avait vraiment d'autres préoccupations au printemps et pendant l'été 45.
On passe directement aux décès et aux naissances. Alors, les décès, il y en a de nombreux, évidemment. Mais...
liés à la guerre. Bon, vous les chercherez, vous les trouverez. Autrement, ben, rappelons le président Roosevelt, Hitler, Mussolini, Himmler, Goebbels. Bon, en dehors de l'aspect militaire. Paul Valéry. Vraiment un des très grands poètes français, qui meurt le 20 juillet et qui va avoir droit immédiatement à des obsèques nationales, ce qui est très rare. Il est inhumé, n'oublions pas, au cimetière marin de Sète, sur la colline, sur le Mont-Saint-Clair. Le grand poète Robert Desnos, le compositeur hongrois Béla Bartók, le verrier Lalique, qu'on a un petit peu oublié, mais ses créations se vendent toujours très très cher. Alors, les naissances. Oh, l'actrice Mia Farrow, le cinéaste allemand Fassbinder, les grands coureurs du Tour de France, et pas seulement, Luis Ocaña, l'espagnol, et Eddy Merckx, le belge. La chanteuse Sheila, la skieuse Marielle Guatchel, qui sera célèbre aux Jeux Olympiques de 1968, Jeux Olympiques d'hiver, bien sûr, célèbre en 1968 toujours et toujours chroniqueur politique de nos jours, Daniel Cohn-Bendit, l'actrice Marthe Keller, la chanteuse Catherine Lara, Jessie Norman, ah, célèbre, elle a chanté la Marseillaise pour le bicentenaire en 1989 à Paris. Dick Rivers, le romancier Didier de Coin, la romancière Chandler Nagor, et on va terminer par Eric Clapton. Alors, pas facile de trouver des chansons spécifiques de l'année 45 parce que tous les organismes qui éditaient des chansons avaient mis la clé sous la porte en 1944 parce qu'ils étaient à Paris, donc dans Paris occupé. Donc il fallait le temps pendant l'année 45 à de nouvelles éditions de voir le jour. Néanmoins, un chanteur très célèbre avant-guerre, pendant la guerre et après, ben Charles Trenet continue cette année-là, c'est la folle complainte où il raconte un petit peu son enfance. C'est la mode en 1945 de chansons qui font rêver sur les États-Unis, qui font rêver parce que les Français savent très bien qu'ils ne pourront jamais se payer un voyage aux États-Unis, surtout s'ils sont déjà nettement adultes. Donc, Georges Guettari, par exemple, à Honolulu, Honolulu, etc. Luis Mariano, très célèbre, chante La Belle de Cadiz. Et Jacques Elian, Fleur de Paris. C'est considéré comme l'hymne de la libération, mais c'est déjà très chanté en 44. Donc, j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus intimiste. Il ne faut pas oublier que pendant 6 mois, les gens attendent le retour des prisonniers de guerre, des STO et des déportés. Donc, Eliane Sélis chante une délicieuse mélodie en 1945. « Baisse un peu l'abat-jour. On peut imaginer des retrouvailles. »
Merci Jean-Sarah Méard.
Au coin du feu, quand on est deux, il fait bon vivre. Ooh.